Le festival des expositions réalisées par des apprentis du Master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'hôtel de Guines d'Arras autour de 13 mini-expositions qui font appel à la curiosité avec des thématiques d'actualité ou de société, qu'elles soient écologiques, instructives, en rapport avec le vivant, mais en alertant, en sensibilisant ou en faisant comprendre le pourquoi du comment au public dans un but ludique. Je vous propose un panel de 3 expositions expliquées par les étudiants qui les ont réalisées. On parlera avec eux de déchets nucléaires, de mégabassines et de bipolarité. On sera en compagnie de Titouan et de Marilyn Catherine. Et on commence par Julie. Julie, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu t'es intéressée à la bipolarité, mais je vois qu'il y a plein de choses dans l'exposition que tu proposes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as organisé cette exposition d'abord ?
Oui, alors la forme générale de l'exposition, en fait, ça reprend la forme d'une roue. Par cette forme, l'objectif, c'était de prendre à contre-pied l'idée qu'on a souvent dans l'imaginaire populaire de deux pôles qui s'opposent, noir-blanc, concernant la bipolarité, mais plus... redire qu'en fait c'est plutôt quelque chose de cyclique avec énormément de nuances, énormément de facettes, quelque chose de cyclique et voilà. Et donc chaque zone de l'exposition, il y en a 5, reprend une des grandes humeurs symptomatiques des troubles bipolaires, donc à savoir l'état maniaque, l'état dépressif, l'état hypomaniaque et enfin la stabilité qui est l'état qu'on essaye d'atteindre idéalement par tous les traitements qui existent concernant ces troubles.
Tu parlais d'état hypomaniaque, l'état bipolaire, etc. C'est quoi les différences entre ces différents états ?
Alors, la bipolarité, c'est un trouble qui se caractérise par une fluctuation extrême de l'humeur, donc au travers de ces différents états justement que j'ai énumérés. Donc, l'état maniaque, ça va se caractériser notamment par une agitation extrême, vraiment une très grande hyperactivité, impulsivité qui peut aller jusqu'au délire, à la paranoïa, à des hallucinations. Le pendant inverse, du coup, c'est l'état dépressif qui lui va se caractériser par une très grande tristesse, une apathie, une fatigue constante, donc une très faible image de soi. Et ça comprend tous les états qu'il y a entre ces deux grands extrêmes, donc notamment l'état hypomaniaque qui est plus difficile à repérer parce qu'en fait c'est un état maniaque en quelque part qui est atténué avec des symptômes un peu moindres mais qui est déjà pathologique car annonciateur d'une manie à venir ou d'un trouble bipolaire de façon générale.
Est-ce que tu as eu des gens qui sont venus voir ton expo et si c'est l'occasion, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, c'est quoi le retour de ces gens quand ils ont vu ton expo ?
Alors on m'a beaucoup parlé des citations qu'il y avait dans l'exposition, on m'a demandé si j'avais eu l'occasion de faire des entretiens, donc ça a été le cas, je me suis énormément basée sur des entretiens, 6 entretiens que j'ai menés avec des personnes directement concernées par les troubles bipolaires, donc j'ai réussi à les contacter via une association de personnes aidantes, donc de l'entourage des personnes bipolaires, et donc, il y a eu une petite annonce qui a été postée dans un établissement psychiatrique de Loire-Atlantique. Et en fait, les personnes m'ont directement contactée via cette annonce pour me livrer leur témoignage. Donc ça, c'est un des points très importants de l'exposition et sur lequel les visiteurs reviennent souvent. Il y a aussi eu le retour que, on ne s'attend pas forcément à tous ces aspects autour de la bipolarité. C'est vrai qu'on a une image qui est véhiculée souvent dans les médias ou dans les films ou la cinématographie d'assez stigmatisé et stigmatisant alors qu'en fait c'est évidemment beaucoup plus complexe étant donné que c'est quand même la maladie psychiatrique qui tue le plus et une des maladies les plus invalidantes au monde selon l'OMS.
Il y a de l'audio, donc j'imagine que c'est tout ce que tu as récupéré des témoignages et puis je vois qu'il y a quand même des choses qui sont inscrites sur un paquet de mouchoirs où on voit « j'ai beaucoup pleuré tout le temps ».
Ça, c'est un petit objet que j'ai mis pour en fait symboliser un des premiers entretiens que j'ai eu avec une jeune femme qui s'appelait Muriel et qui m'a parlé de son premier épisode dépressif au cours de son parcours de troubles bipolaires et qui m'a dit que lors de sa première phase dépressive, elle avait passé 15 jours à pleurer sans jamais pouvoir s'arrêter. Et en fait, j'ai voulu représenter ça par cette espèce de cascade de mouchoirs, cette rivière un peu de flou qui ne s'arrête pas, cet état très compliqué qu'est la dépression.
Il y a aussi des figures. Alors là, je ne reconnais pas exactement. Par contre, j'ai reconnu Charles Baudelaire, également, évidemment, figure emblématique de la poésie. J'imagine qu'ils étaient bipolaires ou...
Oui. Alors, c'est Virginia Woolf, deuxième figure.
Je ne l'ai pas reconnue.
Voilà, grande écrivaine britannique. Et je les ai notamment choisis. Bon, après, c'est deux personnes, en effet, qui ont été diagnostiquées bipolaires à titre posthume. Donc, c'est toujours compliqué de poser un diagnostic après la mort des personnes. Mais j'ai voulu les mettre pour montrer qu'en fait, la bipolarité, ce n'est pas un trouble, une maladie qui a été découverte récemment, mais qui existe depuis longtemps et qui touche les personnes depuis plusieurs siècles.
Alors évidemment, il y a aussi le régime médicamenteux. Je vois qu'il y a aussi des médicaments. Est-ce que ça les aide vraiment, ces personnes, justement, dans la bipolarité, parce que ben il y a des antidépresseurs, etc., pour éviter qu'ils tombent dans une certaine forme de mélancolie, on va dire, qui va augmenter en plus leur bipolarité ou leur hypermania, on va dire. Est-ce que ça marche ?
Alors, moi, je ne suis pas du tout
médecin. Oui, je me doute bien, mais bon.
Sachant que d'autant plus, on ne donne pas d'antidépresseurs, notamment aux personnes bipolaires, parce que ça peut déclencher ce qu'on appelle un virage maniaque. Donc, à partir du moment où les personnes sont diagnostiquées bipolaires, on ne donne jamais d'antidépresseurs, à moins d'être vraiment dans des cas particuliers de dépression très profonde. Mais normalement, on ne donne pas d'antidépresseurs aux personnes bipolaires. Ensuite, bien sûr, ça aide, notamment la molécule du lithium, qui est la plus utilisée et délivrée en France pour traiter ces troubles. On ne sait pas encore exactement comment la molécule agit sur le cerveau, mais en tout cas, on sait que c'est un excellent thymorégulateur, ce qui veut dire régulateur de l'humeur.
Ce thème de la bipolarité que tu as choisi pour son exposition, est-ce que ça te parle directement ? Est-ce que tu as été confronté justement à des gens bipolaires ?
Oui, donc même en amont de mon exposition, j'ai connu des personnes qui étaient bipolaires. Et en fait, j'ai notamment été confrontée à l'écart entre ce qu'ils vivaient et la réaction qu'a pouvait avoir leur entourage face à ce vécu qui était souvent teinté qui manquait de compréhension peut-être, qui pouvait voire même tourner ça à la dérision. Quand on parlait de bipolarité, on peut s'entendre dire... oui, mais tout le monde est un peu bipolaire dans le fond, ou mais voilà, c'est juste des changements d'avis rapides, alors que non, c'est, je le rappelle encore, la maladie psychiatrique la plus mortelle au monde. Donc je pense que c'était important de redonner des clés de compréhension au grand public pour savoir vraiment de quoi on parle.
Titouan, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu nous proposes donc dans le cadre de ce master expo graphie muséographie du Festival des Expositions à l'Hôtel de Guines, une exposition sur les méga-bassines.
Gros sujet très très d'actualité et puis très gros sujet où on peut partir sur plein de thématiques à l'intérieur. Et je me suis un petit peu dissous comme un sucre dans l'eau, tellement les thématiques sont nombreuses. Donc en réalité, c'est vraiment divisé en deux temps.
On va s'approcher de la première partie.
Donc la première partie, en fait, elle s'appelle en amont. C'est-à-dire quand on vient attraper de l'eau complètement, on vient pomper l'eau dans la nappe phréatique, on l'enlève du circuit, on l'enlève de son flux et on la réexploite pour un système industriel d'agriculture intensive et souvent en monoculture. Et en fait, cette eau-là, elle va ensuite partir à direction des productions céréalières de maïs et de soja dans l'ouest de la France, beaucoup dans les pays de la Loire et dans la région Aquitaine aujourd'hui. Et moi, ce qui m'interrogeait un petit peu dans cette thématique, c'est que le fait d'immobiliser de l'eau et de l'exploiter pour une production agricole et industrielle, ça m'interrogeait dans nos rapports qu'on a à la nature, au vivant et justement à cette matière si précieuse aujourd'hui.
Alors on voit qu'il y a des schémas avec des... comment on peut appeler ça ? Des petits fils avec des petites aiguilles. Tu peux nous expliquer un petit peu ?
Il y avait quelque chose qui était très important pour moi, c'est que j'avais envie de travailler un petit peu la matérialité de cette réflexion-là. Je voulais montrer le flux au travers du fil. Mmh. Et donc je me suis mis à constituer un petit peu comme une mind map avec des épingles et du fil tendu et essayer de reconstituer des nappes phréatiques qui se font pomper par la photo de Sainte-Soline qu'on voit là, qui est une grosse mégabassine dans le sud de la France, dans le sud-ouest, de 10 hectares quand même. Donc c'est 15 places d'Arras, la place des héros, accolées les unes aux autres. Et puis j'avais aussi envie de travailler un petit peu ce style géométrique très carré, donc montrer en fait qu'on a une approche hyper rationnelle de l'eau. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la petite exposition, et les fils ils deviennent de moins en moins géométriques. On a de plus en plus d'intercommunication jusqu'au moment où on arrive sur la partie aval avec ce fameux autre regard. Et là, on réinterroge le flux et on voit plein de fils qui sont tissés les uns aux autres et qui montrent en fait des processus d'interdépendance et d'intercommunication avec le vivant et entre les sociétés humaines, avec nos usages.
En tout cas, c'est hyper esthétique. Alors, t'évoquais Sainte-Soline, évidemment, ça a été un gros sujet. Est-ce que toi, t'as suivi un petit peu le dossier ? Est-ce que tu t'es rendu peut-être sur place même, d'ailleurs ?
Ouais, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'y rendre. J'ai voulu m'y rendre cet été, puisqu'il y avait une nouvelle marche en 2024, justement, toujours parce que la mobilisation continue. Mais c'est vrai que j'ai été très, très choqué par la manière dont les choses se sont déroulées, et donc j'ai voulu rester un petit peu à distance. Il y a aussi quelque chose qui était important dans l'exposition, c'était l'occasion pour moi d'essayer de retravailler un sujet qui est hyper clivé. On parle de la guerre de l'eau aujourd'hui, dimensions politiques, idéologiques très fortes. Enfin, il y a des partis politiques qui s'affrontent aussi là-dessus. Et donc, dans un processus un petit peu de muséographie, de comment est-ce qu'on réfléchit ça quand on est un agent du service public, quand on bosse dans un musée, comment est-ce qu'on peut faire pour parler de sujets qui sont aussi tendus. Et j'avais envie de quitter un petit peu la sphère militante pour justement essayer de retrouver d'autres manières de reconstruire de l'imaginaire, du récit, et essayer d'avoir un discours scientifique et que je ne me fasse pas non plus taxer de militant et d'idéologue.
L'eau, c'est la vie et ça devrait être gratuit pour tout le monde.
On est d'accord. Et c'est un commun pour l'humanité à préserver, à restaurer et à vivre avec.
Marilyn Catherine, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, donc, dans le cadre de ce festival des expositions, tu nous proposes quelque chose qui est toujours d'actualité et en même temps qui est assez évidemment sulfureux, les déchets nucléaires, avertir les générations futures.
Tout à fait. Donc j'ai travaillé sur les déchets nucléaires, donc sur la problématique de la transmission aux générations futures, parce que les déchets nucléaires sont près de nous pendant très très longtemps. Donc ils ont pour certains une durée de vie de plus de 100 milliers d'années. Donc on les accompagne très longtemps. Et ils sont très radioactifs, donc très dangereux pour la population et l'humanité. Donc cette exposition, elle permet de voir qu'on est très dépendant à l'énergie nucléaire, donc à plus ou moins grande échelle, bien évidemment. Elle nous permet de voir aussi la classification faite par l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires, qui nous permet d'avoir une classification donc, des déchets en fonction de leur durée de vie et de leur niveau de radioactivité, donc allant de très faiblement radioactif à hautement radioactif, qui dure pendant vraiment des centaines de milliers d'années. Donc l'objectif de cette exposition est aussi de présenter les centres de stockage pensés par l'ANDRA, donc présenter leur lieu d'implantation et comment ils sont créés, donc créés par couches, pour justement limiter la propagation de la radioactivité. Et l'exposition se termine sur la problématique de transmission aux générations futures, où là je présente des citations et des anecdotes ainsi que des références qui nous permettent de voir qu'il y a un réel problème dans la transmission aux générations futures, au niveau du langage et des outils. Donc on voit dans cette partie la problématique donc, des outils à la fois par la matière, les matériaux qui se désagrègent, les outils aussi numériques qui évoluent très vite, le langage, les signes qui évoluent également très vite. Donc ça, je le passe plus par... donc il y a la référence des hiéroglyphes qu'on ne sait plus ou presque plus lire à l'heure actuelle. Et également par des références, enfin des citations qui nous dit que des langues, enfin les langues meurent, que des signes aussi évoluent ou disparaissent, notamment le signe de la radioactivité qui était auparavant le signe de l'électricité et qui présentait pas forcément de dangerosité.
On sait que évidemment ces déchets nucléaires sont enfouis. Parfois à l'insu de certaines régions qui ont manifesté. J'imagine que tu es au courant un petit peu de... Tu peux peut-être nous dire un petit peu ce que tu as constaté dans des régions qui étaient des parcs naturels où puis en même temps, ben, voilà, ils ont enfoui des déchets parce qu'ils disaient que ben, finalement, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, etc.
Tout à fait. Donc c'est une partie que j'aurais aimé évoquer aussi dans mon exposition, mais j'ai préféré réduire pour me concentrer vraiment sur la transmission aux générations futures. Mais il y a aussi l'impact environnemental où il y a un moment où on jetait nos déchets radioactifs dans les océans, donc qui ont vraiment pollué les océans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de stockage qui sont dans l'Aube, donc où il y a une faible densité de population et donc moins de gens à convaincre, si je puis dire. Et il y a aussi beaucoup de luttes, notamment avec le projet CIGEO, qui est le projet qui va accueillir les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie longue et les hautement radioactifs, qui est encore en projet face aux luttes des anti-nucléaires qui protestent sur ce centre de stockage qui... où l'objectif est d'enfuir les déchets à plus de 500 mètres sous terre.
Il y a la nature, il y a aussi les animaux. Comment est-ce que toi, tu t'es intéressé un petit peu à l'impact que ça peut avoir sur la nature et les animaux qui peuvent éventuellement contaminer et s'ils sont en contact avec ces déchets?
Oui, il y a aussi les animaux qui peuvent être contaminés, effectivement. Après, malheureusement, ils ne peuvent pas réellement donner leur voix à l'heure actuelle. Enfin, ils ne peuvent pas créer de lutte, du moins, on n'y comprend pas. donc, c'est un réel problème, mais peut-être que les agences aussi ne se sont pas...
On se pose la question, quoi, en fait.
Ou n'en parle pas justement pour pas qu'on se pose la question aussi. L'objectif de cette exposition, c'était vraiment de faire prendre conscience aux visiteurs que l'énergie nucléaire produit des déchets et qu'on a cette problématique de transmission et qu'on ne sait pas comment le transmettre à nos générations. Et voilà, donc il n'y a pas de réponse encore effective. Mais l'ANDRA travaille dessus, il y a aussi des artistes qui travaillent dessus pour trouver, ils se questionnent s'il faut un seul langage universel qui pourrait évoluer au fil des générations ou si c'est plusieurs langages qui permettent de parler à vraiment plusieurs personnes. Donc à la fois sur comment on localise le centre de stockage et aussi sur savoir ce qu'il y a à l'intérieur et dire que c'est vraiment dangereux et qu'il ne faut pas... faire des travaux dessus, faut pas les découvrir, faut pas faire des travaux de fouilles, quoi.
Question bonus, on parlait à un moment donné, il y a eu, j'ai vu dans des flash infos il y a quelques temps déjà, qu'on pourrait éventuellement envoyer les déchets nucléaires dans l'espace, t'en penses quoi ?
Oui, j'ai déjà vu cette info également. On a déjà contaminé nos océans. Là, on est en train de glisser sur nos terres. Donc faut trouver une solution ou peut-être revoir notre consommation à l'énergie. Donc certes, on ne peut pas du jour au lendemain passer d'une énergie où on est autant dépendant à une autre énergie. Mais peut-être qu'au fil du temps, on va trouver des moyens pour réussir à recycler plus facilement d'autres énergies ou gérer les déchets plus facilement que celle de l'énergie nucléaire qui dure vraiment pendant des milliers d'années et ne sont pas gérables à l'échelle humaine.
reportage réalisé lors du Festival des Expositions qui s'est déroulé du 2 au 5 octobre à l'Hôtel de Guine d'Arras et mis en œuvre par des apprentis du Master Expographie-Muséographie de l'Université d'Artois.